L'Hebdo Région, Thomas Cochebret sur RCF et Radio Fidélité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale. À la une de ce magazine, retour sur la forte mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi. Reportage dans le cortège à découvrir dans quelques instants. Vous entendrez également la colère des artisans bouchers qui font face à l'explosion du montant de leurs factures. Vous entendrez également la colère du maire de Pornic qui fait face, comme d'autres maires sur le littoral vendéen ou encore en Bretagne, à la pollution aux larmes de sirène. Vous entendrez également le père Jean Bondu, prêtre du diocèse de Luçon, qui sera ordonné ce dimanche évêque auxiliaire de Rennes. Et enfin, nous vous inviterons à découvrir la pièce de théâtre « Monsieur le curé fait sa crise » qui sera jouée en Mayenne. Voilà donc pour le programme de cette Hebdo Région qui vous est présenté par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Ils étaient près de 130 000 manifestants dans la région d'après les syndicats, près de 90 000 selon les chiffres de la police. Les marches contre la réforme des retraites ont fait le plein ce jeudi dans les Pays de la Loire avec des cortèges dans une quinzaine de villes. Les syndicats revendiquent plus de 45 000 manifestants à Nantes, 20 000 au Mans, 15 000 à Angers, plus de 8 000 à Laval et à La Roche-sur-Yon. Notre reporter était dans le cortège à Angers.
Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner, on se battra pour les garder.
Le cortège s'élance de la place Leclerc. Au milieu des drapeaux de tous les syndicats, le rouge de la CGT et de Force ouvrière se mêle au orange de la CFDT. Contrairement à 2019, là, tous les syndicats ont appelé à faire grève contre la réforme des retraites qui prévoit le recul de l'âge de départ à 64 ans, un recul progressif d'ici à 2030. Adeline fait le ménage dans un collège d'Angers. Elle a commencé à travailler à 18 ans et à 42 ans, elle est déjà usée. Elle ne se voit donc pas travailler 2 ans de plus.
Nous avons un travail très physique. On fait des tâches quand même fatigantes, on travaille très tôt le matin et savoir qu'on va être amené à travailler jusqu'à 64 ans, concrètement oui, ça nous fait peur parce qu'on est déjà fatigué, usé physiquement et ça devient compliqué si on va travailler encore plus tard, quoi.
Céline a 29 ans, elle porte sa blouse verte d'infirmière au bloc, un métier qu'elle exerce depuis déjà 7 ans au CHU d'Angers.
C'est de plus en plus compliqué, moi je me vois pas travailler aussi tard. Physiquement, je pense que c'est pas possible. Mentalement, je pense que c'est pas possible. Et on nous met en plus beaucoup de restrictions budgétaires, etc., qui nous empêchent de faire notre métier correctement. Donc on va pas pouvoir le faire aussi tard.
Si on recule encore l'âge de la retraite, les pots de départ risquent de changer, annonce une pancarte avec la photo d'une urne funéraire. C'est celle de Nadège, Atsem à Angers, elle a 59 ans, elle ne veut pas travailler jusqu'à 63 ans.
C'est difficile aussi de travailler avec des petits. C'est très agréable, mais physiquement, c'est fatigant. Donc, faire 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin jusqu'où? Non, à un moment, j'ai aussi envie de profiter de ma retraite. J'ai pas envie de finir dans une boîte, quoi. D'arriver à la retraite, non. Je pense que, voilà, il faut savoir aussi s'arrêter.
Son mari Bruno est sur la même ligne. Lui, sa pancarte affiche la photo d'un cercueil accompagné de ces mots. Allongement du temps de travail, la nouvelle caisse de retraite est déjà prête. Conducteur de travaux, Bruno travaille depuis qu'il a 16 ans. Alors à 60 ans, il ne se voit pas faire plus.
Il y a de plus en plus de stress dans tous les travaux. Donc tout ça, ça use la santé. Quand on a cotisé 40 ans, c'est déjà beaucoup. C'est pour ça que voilà, la retraite, c'est maintenant et pas dans une boîte en bois à 5 pieds sous terre. La retraite, c'est le plus tôt possible et en forme pour en profiter.
Didier, lui, est fraiseur. Il a 54 ans. Il devait s'arrêter à 61 ans et c'est hors de question de travailler 1 an de plus.
J'ai un métier qui est assez pénible quand même. Je travaille sur machine, je porte des charges lourdes, je me déplace pas mal, donc... L'arthrose, il y a plein de trucs. Hein, ça... Le dos, j'ai commencé à 19, c'est bon, place aux jeunes.
Dans le cortège, on trouve de nombreuses enseignantes comme Isabelle, maîtresse en maternelle. Elle a 58 ans et ne se voit pas aller au-delà de 62 ans.
Le fait d'être un peu en décalage, je pense, quand on arrive à la soixantaine avec des enfants très jeunes. Et puis je pense qu'il y a vraiment une fatigue liée au bruit et à l'énergie en fait, qu'ont les enfants, quoi, tout simplement.
Professeure en lycée, Valérie a aussi du mal à se projeter.
La retraite à 64 ans, moi je suis en lycée professionnel, ça me paraît un peu loin aussi parce que ça demande beaucoup d'énergie. Il faut tenir les classes quand même à des élèves qui sont un peu plus en difficulté, qu'il faut canaliser régulièrement, donc ça demande de l'énergie.
Les syndicats appellent à une prochaine journée de manifestation le mardi 31 janvier.
Un reportage signé Marion Bastide pour RCF Anjou. Dans le reste de l'actualité ligérienne, au Mans, environ 170 salariés des MMA se sont à nouveau mobilisés mardi sur le site de la Californie. C'est le deuxième rassemblement depuis le début de l'année 2023. Ils réclament des recrutements pérennes pour pallier les prochains départs en retraite et dénoncent à nouveau la politique du chiffre de la direction. Trouve ta voie avec SNCF Réseau. C'est le slogan de la nouvelle campagne de recrutement que lance l'opérateur en charge du réseau ferré. Près de 150 emplois en CDI, des formations en alternance qui sont à pourvoir actuellement au Pays de la Loire. Des métiers qui sont présentés au grand public ce week-end à Nantes avec l'espoir d'attirer de nouveaux talents venus d'horizons variés. Hommes, femmes, personnes en situation de handicap, étudiants étrangers, actifs en reconversion professionnelle. Nos portes sont grandes ouvertes, nous explique SNCF Réseau. Anne-Laure Blin prend du galon chez les Républicains. La députée de Maine-et-Loire a été nommée hier secrétaire générale adjointe du parti de droite. Un nouvel organigramme chez les LR qui n'a pas plu à l'ancien président de la région des Pays de la Loire, Bruno Retailleau. L'ancien candidat malheureux à la présidence du parti a dénoncé une organisation qui, je cite, « ne tient pas compte des équilibres issus du scrutin. Nos accords ne sont pas respectés, je le regrette. » Il y a 5 ans, l'État décidait d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Un an plus tard, Édouard Philippe signait avec la présidente de région le contrat d'avenir qui scellait l'engagement de l'État de compenser l'abandon de cet équipement. Aujourd'hui, Christelle Morançais n'en peut plus d'attendre. Elle réclame des compensations qui ne viennent pas. Elle demande une refonte de la plateforme aéroportuaire de Nantes-Atlantique et demande également à l'État qu'il garantisse 100% des liaisons TGV Nantes-Paris en moins de 2 heures sans léser Le Mans ni Angers.
L'Hebdo Région, rencontre avec.
L'État nous met à poil. C'est le cri de colère des bouchers face à l'explosion du montant de leurs factures. Un mouvement local qui a évidemment des répercussions dans tous les pays de la Loire. Paul-Joseph Bouladou, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors on peut s'en douter dans le contexte actuel, mais quelles sont les difficultés que rencontrent les bouchers?
Il y en a plusieurs, mais comme vous l'avez compris Thomas, celles qui ont le plus d'impact sont l'explosion du prix de l'électricité et la hausse du coût des matières premières. Mickaël Douard, président de la Fédération des artisans bouchers, charcutiers et traiteurs de la Sarthe, nous explique le nœud du problème.
En fait, c'est la même problématique que nos amis boulangers. C'est que nous, on est fabricants, on est artisans, donc on a besoin d'avoir du matériel qui soit efficace. Et automatiquement, quand on a un four, en fait, voilà, par rapport aux aides qui sont mises en place, on nous dit qu'il faut avoir un compteur électrique de moins de 36 kg. Sauf qu'un seul four, chez moi par exemple et chez plein de collègues, fait déjà 36 kg. Donc ça veut dire que c'est totalement pas possible. C'est ça, on fabrique tout, donc il faut bien les mettre dans des frigos. On a plusieurs chambres froides, parce qu'il faut tout séparer entre la viande, la charcuterie, ce qui est cru, les fruits et légumes. Donc on sépare tout, donc on a des frigos et on ne peut pas les éteindre. C'est pas quelque chose où on se dit, on va la couper pendant 2 heures ou 2 jours, ou ça ne marche pas comme ça, ça marche en permanence et on n'a pas le choix. Tous les artisans de la Sarthe fabriquent et sont énormément fabricants. On est une des régions qui fabrique le plus, donc tant mieux. Il ne faut surtout pas enlever ça, nous, à nos artisans, parce que ça nous coûterait moins cher d'acheter du saucisson, des rillettes chez un grossiste. Pour les revendre, c'est certain, mais ce n'est pas dans notre ADN du tout.
Pour Mickaël Douard, les aides proposées par l'État sont insuffisantes, surtout que l'explosion du prix de l'électricité provoque un effet domino.
Donc là, les aides qui ont été proposées, elles nous aident à peu près à la hauteur de 20%. Ils ont mis un plafond à 280 euros du mégawatt et après ils nous aident au-dessus. Mais il faut savoir que notre facture a augmenté x3. Donc quand on enlève toutes les aides, on va dire que notre facture est encore à x2, quoi. Sauf que multiplier par 2 notre facture d'énergie fait qu'on n'a plus de rentabilité dans nos entreprises. Et s'il n'y a plus de rentabilité dans les entreprises, j'ai certains collègues moi, qui m'ont dit on est 9, 10, 11, à 11, on va licencier quelqu'un. Pour se retrouver à moins de 10 et pouvoir toucher les aides. Il n'y a pas que l'énergie qui rentre en ligne de compte chez nous, c'est qu'on travaille des viandes de qualité. On veut que nos éleveurs soient bien payés, ce qui est tout à fait honorable et logique. Par contre, quand on a nous des factures qui augmentent de 25 à 30%, si la viande augmente de 25 à 30%, ça va être inévitable de devoir augmenter des prix. Sinon, c'est la mort des boucheries partout dans toutes les communes.
Paul-Joseph, on a bien compris que les aides de l'État sont insuffisantes, mais est-ce que les bouchers charcutiers ouvrent des pistes?
Oui Thomas, mais plutôt que des aides qui arrivent une fois que les commerces ont dû réduire leur activité, ils veulent un prix plafonné et surtout que ce principe soit étendu à toutes les structures.
En fait, c'est beaucoup d'effets d'annonce, mais à partir du moment, comme ils mettent beaucoup de conditions pour avoir droit aux aides, il faut savoir qu'il faut être moins de 10 salariés, il faut faire moins de 2 millions de chiffre d'affaires et il faut avoir un compteur énergétique qui soit moins de 36 kilos. Sauf que nous, on est quasiment tous déjà au-dessus des 36 kilos. Donc déjà, on est sûr de ne pas toucher ces aides-là, quoi. Eh ben, nous, ce qu'on voudrait, c'est que c'est pas des aides pour venir après, parce qu'il va bien falloir qu'on paye les factures pour après qu'elles soient remboursées. Donc c'est pas ça qu'on veut. Nous, on voudrait que ça soit qu'il y ait un montant maximum qui soit figé pour toutes les TPE, ce qui a été proposé à plus 15% d'augmentation. Ça nous paraît juste. Ça, on peut l'accepter. On est d'accord de payer au même titre que tout le monde l'énergie un petit peu plus chère. Mais entre 15% ou plus 320%, il y a quand même une sacrée différence.
Au niveau national, une manifestation des bouchers a déjà eu lieu en novembre à Paris et d'autres actions sont en préparation.
Paul-Joseph Bouladou pour RCF Sarthe. Merci beaucoup Paul-Joseph. Toujours en Sarthe, l'entreprise JC Deco, propriétaire de nombreux panneaux publicitaires et d'informations sur le territoire de Le Mans Métropole, va contribuer à la volonté de sobriété énergétique de la collectivité. Dès la fin de ce mois de janvier, l'ensemble des panneaux de l'agglo seront éteints entre 1h et 6h du matin. Cette adaptation devrait permettre de baisser de 38,6% la consommation énergétique de ces mobiliers. Jeudi, le tribunal de commerce d'Angers faisait sa rentrée solennelle. L'occasion pour son président, Rémi Douget, de dresser le bilan de l'année 2022 sur la santé des entreprises angevines. Et l'an dernier, justement, plus de 280 procédures collectives ont été ouvertes, c'est-à-dire des redressements ou des liquidations judiciaires. Une hausse de près de 30% par rapport à 2021. Mais pas d'affolement, nous explique le président du tribunal judiciaire d'Angers. Par rapport aux chiffres d'une année normale, notamment en 2019, c'est loin d'être catastrophique.
L'Hebdo-Région, initiative.
Direction à présent la Loire-Atlantique où nous attend à Nantes Simon Marty. Bonjour Simon.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Et retour aujourd'hui sur une pollution qui touche depuis quelques semaines les plages du littoral en Vendée et en Loire-Atlantique. De quoi s'agit-il exactement Simon ?
Des larmes de sirène. Alors si le terme est poétique et nous renvoie à quelque chose d'un petit peu folklorique, la réalité, elle, est beaucoup plus terre-à-terre. Il s'agit en pratique de microbilles de plastique issues de la production industrielle qui viennent s'échouer en nombre sur nos plages et face à laquelle aujourd'hui tout le monde semble bien démuni. Comme nous l'a expliqué Jean-Michel Brard, le maire de Pornic, il a décidé de porter plainte contre X suite à une énième pollution survenue la semaine dernière.
Aujourd'hui, si vous voulez, la ville a porté plainte d'abord pour acter et dater l'événement. Ce qui est important pour mettre en protection notre littoral. Nos 14 km de côte aujourd'hui sont certainement impactés par cette arrivée. Elle est sournoise parce que quand elle est dans l'eau, on ne la voit pas et elle arrive, on la voit à terre. Elle est tellement fine que dès qu'il y a du vent, elle s'envole aussi. Donc on a porté plainte hier contre X. On a eu les services de l'État qui recherchent aussi. C'est une pollution qui n'est pas que sur Pornic. Hein. Je sais qu'il y en a sur le littoral de Loire-Atlantique et sur le littoral de la Vendée. Il y a quelques semaines, il y en avait aussi dans le Finistère.
Un maire qui aujourd'hui ne comprend pas comment de telles pollutions peuvent survenir de manière récurrente et en toute impunité.
Ce que je constate, c'est que des conteneurs qui tombent à l'eau, parce que moi je pense que c'est ça l'origine, même si je ne peux pas l'affirmer, on a eu ça, on a eu des petits sachets de cocaïne il y a quelques années, on a eu des détonateurs aussi qui étaient perdus par la mer qu'on a retrouvés sur nos plages, donc on a de temps en temps ces arrivées-là. Des arrivées de microbilles comme ça, très honnêtement, c'est la première fois. Et on a aussi des pollutions qui arrivent tous les jours dans la laisse de mer, qui sont en fait ce que fait l'humain, le citoyen au quotidien, qui jette une bouteille d'eau par-dessus bord, qui jette sur le bord de la mer, qui part, ou des problèmes de déchets d'ordures ménagères qui sont mal rangés par des pays, mal gérés par des pays. Et donc on retrouve sur nos plages, et c'est ça qui est le malheur, c'est tous ces détritus qui mettent des années et des années, et le grand fléau, c'est la bouteille plastique, parce qu'une fois qu'elle est fermée, bah, elle devient l'objet flottant, et ça se balade sur les océans. Donc il faut absolument que tous, on y fasse et on y prête une attention forte, de façon à ce que nos océans, qui, je rappelle, est une ressource formidable, notamment au niveau alimentaire. Et donc, il faut vraiment qu'on y fasse attention. Et ce qui me désole le plus sur le transport maritime, c'est qu'il n'y a pas de tracé, quoi. J'ai du mal à comprendre que propriétaire d'un produit qui est sur un porte-conteneur, quand il n'arrive pas au port, il ne soit pas déclaré, qu'on n'arrive pas à savoir à quel moment il a été perdu et où il a été perdu, et nous donner la quantité.
Alors pour tenter de mettre fin à ces épisodes à répétition, les collectivités commencent à se mobiliser.
Oui, car après la plainte déposée par la mairie de Pornic, c'est au tour de la région des Pays de la Loire d'aller déposer plainte contre X, alors que dans le même temps, le ministère de l'Environnement envisage de se joindre à la procédure, avec pour tous l'espoir de faire évoluer la législation pour amener plus de traçabilité. Dans le même temps, à Pornic, sur la plage de la Noé-Véliard qui a été touchée par ces vagues de pollution microplastique, les bénévoles de Surfrider vont se mobiliser tout au long du week-end. Pour eux, l'objectif est simple, nettoyer la plage emballage de ces milliers de petites billes de plastique, certaines à peine plus grosses que des grains de sable, un travail titanesque en perspective.
Simon Marty pour Fidélité Nantes, merci Simon. Et on reste sur le littoral, mais en Vendée, plutôt au Sable d'Olonne, ville portuaire qui connaît également cette même pollution aux larmes de sirène, on l'a dit. Et bien là-bas, le maire de la ville s'emporte également contre l'éolien en mer. Dans une tribune intitulée « 20 000 pieux sous les mers quand Éole empale Neptune », Yannick Moreau monte au créneau. Le maire des Sables, président de l'Association nationale des élus du littoral, fustige ainsi le vote des députés le 11 janvier dernier en faveur du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Il déplore notamment l'absence de distance minimale de protection pour l'implantation de nouvelles éoliennes près des côtes françaises. Il estime que l'héritage maritime français vient d'être torpillé, d'être livré aux promoteurs éoliens. La ligne de train Cholet-les-Herbiers pourrait voir le jour dans quelques années, dans 6 à 8 ans, selon le maire de la commune vendéenne qui a été interrogé par nos confrères de Ouest-France. Son coût devrait être connu avec la sortie d'un rapport prévu en ce début d'année. La ville de Saumur pourrait enfin avoir, elle, son casino. La loi sur leurs implantations doit être revue l'an prochain. Et Laetitia Saint-Paul, la députée du Saumurois, compte bien appuyer la candidature de la commune angevine. La députée aurait même le soutien du président de la République. Une perspective vue d'un bon œil par le maire de Saumur, Jacky Goulet, qui a relancé cette idée en 2017.
L'Hebdo-Région, l'actualité religieuse.
Et c'est un moment important pour l'église de Vendée. Dimanche, l'un de ses prêtres sera ordonné évêque auxiliaire de Rennes. Le père Jean Bondu a en effet été nommé par le pape François il y a quelques semaines. Un nouveau ministère pour l'ancien curé de Challans qui ne cache pas son émotion.
Je savais que je pouvais me faire repérer peut-être simplement en étant vicaire général. Et puis ensuite, quand je suis devenu administrateur diocésain, c'était un risque de plus. Mais là, j'avais quitté l'évêché de Luçon, j'étais devenu curé depuis 3 ans, donc j'espérais
vous étiez
être, un
bien.
Être un peu oublié. Et là, un SMS me rattrape, un coup de fil, bon, il faut monter à Paris. Bon, j'étais assez en paix parce que bon, je ne savais pas trop ce qui allait m'être demandé, je m'en doutais un peu. Ce sur quoi je peux m'appuyer, c'est pas sur la confiance que je peux avoir en moi-même, parce que cette confiance, elle est quand même éprouvée par un tel appel. Mais c'est sur le fait que je connais la procédure. Pour avoir répondu moi-même quelquefois à des enquêtes concernant un collègue qui pouvait devenir évêque, la procédure, c'est justement le nonce envoie des questionnaires à un certain nombre de personnes qui évidemment connaissent le candidat évoqué, candidat malgré lui, qui ne sait pas qu'il y a des enquêtes qui sont faites sur son dos. Et ces personnes-là répondent en toute bonne foi et vraiment, voilà, comme elles le veulent, librement, quoi. Et donc, je me suis dit, s'il y a un appel qui m'est adressé, c'est au bout de tout ce cheminement. Et donc, c'est le Saint-Père qui l'adresse, d'une part, hein, le pape François, fou, c'est quand même le responsable de l'Église au niveau universel. Il s'appuie sur le fait que des évêques ont fait une liste de prêtres candidats qu'ils pouvaient entrevoir pour l'épiscopat. Donc déjà, c'est un premier échelon. Et puis ensuite, il y a tous ces questionnaires envoyés à je ne sais pas combien de personnes. Enfin, en général, c'est assez large. Et donc, les personnes qui ont répondu et qui font que voilà, je me retrouve aujourd'hui appelé, quoi. Donc, je m'appuie sur l'Église qui a discerné, qui a réfléchi. Et j'espère que les personnes qui ont été consultées ont aussi fait part de mes limites. Enfin, je le sais, d'ailleurs, je crois que, de fait, on ne peut pas répondre à un tel questionnaire sans évoquer aussi les défauts, les limites, le péché de cet homme.
Qu'est-ce que vous appréhendez le plus dans cette future mission et ce futur ministère d'évêque auxiliaire de Rennes ?
C'est de n'être pas assez transparent à la parole de Dieu. Je ne voudrais pas recevoir l'épiscopat en étant un obstacle, en empêchant les gens d'écouter réellement la parole de Dieu. Je sais que ça peut être une tentation quand on arrive à un tel niveau de responsabilité, parce qu'on est exposé, hein. On est exposé dans le cœur d'une église avec une mitre, et je sais que les gens attendent une parole de l'évêque. Je voudrais absolument que ce soit la parole de Dieu qui leur arrive et non pas la parole de Jean Bondu. Je voudrais vraiment servir à la fois la relation des gens au Seigneur et à la fois la communion de l'Église, l'unité des chrétiens.
C'était le père Jean Bondu, prêtre du diocèse de Luçon, qui devient donc évêque auxiliaire de Rennes. Il répondait au micro d'Aubéry Métro de RCF Vendée.
L'hebdo-région, si on sortait.
Le 27 janvier prochain, monsieur le curé fera sa crise à Château-Gontier, paraît-il. Alors qu'on se rassure, ce n'est pas un abandon de poste annoncé, mais bien plutôt une sortie réjouissante et instructive à la fois qui vous est proposée. Nous retrouvons Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thomas.
Alors j'ai cru reconnaître, Isabelle, le titre d'un livre de Jean Mercier qui avait connu un bon succès à sa sortie en 2016.
Bien vu Thomas. Cette histoire d'un curé usé par les rivalités des dames chargées du fleurissement de la paroisse, l'arrogance de la responsable cathé et autres turpitudes est aujourd'hui un spectacle qui lui aussi fait recette. Reynold de Guéniveau en est l'acteur et nous en raconte le synopsis.
C'est l'histoire d'un prêtre qui s'appelle le père Benjamin Bucois qui est dans une paroisse rurale depuis 2 ans en tant que curé. Et voilà, il se passe beaucoup de choses dans sa vie de paroisse, comme dans vraiment la réalité. Ce prêtre en fait va vivre des histoires avec ses paroissiens qui vont finir par peser énormément sur sa vie quotidienne. Et donc, il va finir par, excusez-moi de l'expression, mais par péter un plomb. Et donc, il va vouloir prendre du recul et il va aller s'enfermer, s'isoler un petit peu pendant quelques temps.
Ça peut paraître un peu féroce, parfois comme portrait, mais il y a aussi beaucoup d'humour et de tendresse de part et d'autre.
Jean Mercier avait compris des choses. C'est un livre et c'est une pièce qui est à la fois destinée aux paroissiens pour mieux comprendre leur prêtre, mais aussi aux prêtres pour mieux comprendre leurs paroissiens. Chacun, il trouve son compte s'il y a vraiment des messages qui sont passés pour tout le monde. Donc c'est pas du tout tout blanc, tout noir, c'est pas le gentil prêtre et les méchants paroissiens. Chacun a une remise en question.
La mise en scène de Mehdi Djahadi donne à Reynold de Guéniveau d'interpréter tous les personnages qui gravitent autour de Monsieur le curé, en plus du curé lui-même.
Enfin, c'est vrai que c'est mon premier seul en scène. Et c'est vrai que quand on m'a dit qu'il y aurait 15 personnages à jouer dans la pièce, au début, ça pouvait paraître un petit peu effrayant. Mais oui, c'est un exercice en tant que comédien qu'on rêve tous de faire un jour ou l'autre. C'est un grand challenge. Mais en tout cas, ça s'y prêtait très bien. C'est tellement vivant, c'est tellement plein de personnages qui sont très différents les uns des autres.
Et force est de reconnaître que Monsieur le curé fait sa crise, que ce spectacle rencontre un très bon accueil du public.
C'est vrai qu'on est heureux que les gens apprécient la pièce, qu'il y a vraiment de bons retours. Il y a vraiment l'idée, sur une même page, que ce soit dans le livre ou que ce soit dans la pièce, on peut à la fois rire et pleurer. En tout cas, c'est ce que nous disent les paroissiens qui viennent voir le spectacle. Ça marche plutôt bien et à la fois le retour des prêtres, qui est très fort, parfois très touchant, mais aussi le retour des paroissiens qui se retrouvent assez facilement dans un personnage ou un autre. Même si c'est caricatural, les gens ont l'intelligence de se dire que bah oui, il y a du divertissement, mais en même temps, il y a une part de vérité.
Et comme disait un évêque après avoir vu le spectacle, il y a un vrai message adressé à chacun. Prêtons attention à nos prêtres.
Faisons gaffe à nos prêtres. Mais il y a aussi le message de dire aux prêtres soyez attentifs à vos paroissiens, soyez attentifs au monde qui bouge beaucoup.
Pour rencontrer le père Benjamin et ses paroissiens, interprétés par Reynold de Guéniveau, rendez-vous donc le vendredi 27 à 20h30 à l'église Saint-Rémy de Château-Gontier. Bon spectacle à tous.
Merci beaucoup Isabelle. Alors c'est vrai que c'est une bonne idée de sortie. Cette pièce s'est déjà un petit peu promenée dans l'Ouest. Et là, c'est presque comme une séance de rattrapage pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui ont envie de passer un bon moment. On vous le conseille. Et puis, on ne peut pas ne pas en parler de cette venue également ce lundi à Laval, à l'invitation justement de Radio Fidélité Mayenne de Michel-Yves Bolloré pour parler de son livre « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution ». Il sera présent à 20h30 à la Maison diocésaine ce lundi pour cette conférence et une séance de dédicace. Et puis, on termine cette hebdo-région avec Brigitte Macron et Didier Deschamps, qui étaient de passage au Mans pour l'opération Pièce Jaune. Accompagnés par l'humoriste Boudère, la première dame et le sélectionneur de l'équipe de France de football ont visité ce lundi la maison des adolescents. Grâce aux Pièces Jaunes, la MDA 72 a pu recevoir 425 000 euros de subventions pour financer ses équipements informatiques et son installation en centre-ville. Un dernier mot de football pour réellement terminer. Ce samedi, 16e de finale de la Coupe de France de football, les Herbiers, club vendéen, reçoivent Reims, équipe de Ligue 1. Trois divisions les séparent. Aux Herbiers, l'épopée 2018 est dans toutes les têtes. Cette année-là, les Rouges et Noirs étaient allés en finale de la Coupe de France où ils s'étaient inclinés face au PSG. Voilà, c'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.